France Musique. Grand large, Benjamin François.
Bonjour à tous. Après le passage de la Renaissance au baroque hier, intéressons-nous aujourd'hui aux splendeurs artistiques des palais romains, où l'opéra ne va pas tarder à faire son apparition dans les années 1620-1630. Parti de Florence, où Péri fait jouer son Eurydice, et Mantoue dans les premières années du XVIIe siècle, il poursuivit rapidement sa course vers Venise et ses palais, songez à l'Orfeo de Monteverdi donné en 1607, puis Rome, pour gagner Naples vers 1650, toujours dans le cadre privé et dans un esprit d'émulation entre les grandes familles. À aucun moment le genre naissant n'a été commercial. Nul ne devait payer sa place pour y assister, même si les assemblées étaient triées sur le volet. Le premier théâtre public vénitien n'ouvrira qu'en 1637. Quant à Rome, ville papale, l'opéra allait avoir la partie beaucoup plus difficile du fait du blocage des autorités envers ce genre considéré comme lascif. Mais nous le verrons, de nombreux contournements permirent l'éclosion de drames lyriques n'ayant rien à envier à leur modèle florentin.
Sangue sparso innocenti vine, uccide spente di tiranno insano, spettacolo infelice al guardo umano, canto su bestie lacrimose scene. Non mi
Les premiers spectacles romains eurent lieu au palais des Quatre Fontaines de la famille Barberini. Pour loger les trois neveux du pape Urbain VIII, on avait lésiné sur aucune dépense. Carlo Maderno, Le Bernin, Bormini, Pierre de Cortone, tous les artistes en vue réalisent les aménagements du palais, histoire de prouver qu'une famille d'origine florentine peut rivaliser en somptuosité avec les grandes dynasties princières romaines. Comme pour les neveux du pape Paul V, Borghese, les Romains philosophes disent que les Barberini ont rendu noblement à Rome ce qu'ils ont pris à l'église. Et nombreux sont les musiciens à bénéficier de leur largesse. Frescobaldi, Capsberger, Mazzocchini, Marazzoli, Landi, Rossi, tout Rome a rendez-vous au palais des Quatre Fontaines. Les Barberini découvrent Monteverdi, Perri et Caccini dans la Villa des Médicis, à quelques centaines de mètres de leur palais. Et on imagine bien leur fascination pour cette nouvelle manière de déclamer un texte tout en le chantant, mais aussi de jouer en scène de manière naturelle et crédible. Une trentaine d'années plus tard, le musicien Mogart, en voyage à Rome, notera que les Italiens ont certaines flexions de voix que nous n'avons point. Les deux neveux d'Urbain VIII, le cardinal Francesco Barberini et son frère Taddeo, général de l'armée papale et prince préfet de la ville de Rome, n'ont pas encore de théâtre à proprement parler. Aussi vont-ils aménager un espace dévolu au théâtre dans un palais encore en chantier pour y donner il Sant'Alessio, Saint-Alexis de Stefano Landi, sur un livret vantant les hauts faits du saint. Ils ont demandé à leur compatriote toscan Giulio Rospigliosi, prélat alors âgé de 30 ans, futur pape Clément IX, d'écrire le livret à l'artiste toscan Pietro de Cotoria, d'aider à concevoir les décors scéniques et à un contralto romain de la chapelle Sixtine, Stefano Landi, de composer la musique. On pense que le rôle-titre fut chanté par le castratino Angelo Ferrotti, chantre de la chapelle Sixtine, lui aussi ancien élève de Landi. Quant au rôle de l'épouse abandonnée d'Alexis, il fut chanté par un autre castrat de petite taille, Marc Antonio Pasqualini, encore adolescent. On sait aussi que les jeunes pages du palais Barberini furent mis à contribution pour former le groupe de danseurs. En somme, une distribution très proche de celle des drames scolaires tels qu'on les donnait au collège allemand de Rome et que Stefano Landi connaissait parfaitement pour y avoir été lui-même sopraniste. La suite de sa jeune carrière, Stefano Landi l'avait accompli dans diverses églises romaines comme organiste et chanteur. Depuis la publication de son premier livre de motets en 1616, bientôt suivi d'un premier opéra, il jouissait déjà d'une solide réputation. Sant'Alessio fut conçu comme un divertissement destiné au carnaval de 1631, un divertissement tout de même bien pieux, puisqu'on voit ce fils de sénateur romain abandonner sa famille et sa jeune épouse pour mener une vie d'ascèse pendant 17 ans, pas vraiment de quoi se gausser. Il connut d'autres représentations les années suivantes, histoire de rivaliser avec les opéras donnés par les Médicis à Florence. Les Barberini se devaient d'asseoir encore davantage leur position dans la haute société romaine. Aussi se dotent-ils en 1639 d'un immense théâtre privé de, tenez-vous bien, 3000 places, le Teatro di Commedia, dans lequel la chronique nous apprend qu'on aurait pu encore y faire entrer 1000 personnes. On reste inconsolable que ce joyau ait été détruit lors du percement de l'actuelle Via Barberini en 1932. Pour les futurs opéras, les Barberini engageront le Bernin et les artistes gravitant autour de la famille pour confectionner les décors. On imagine les dizaines de charpentiers, peintres, décorateurs, tailleurs, perruquiers, brocanteurs, copistes, machinistes qui exerçaient leur métier dans ces occasions. Des observateurs relatent d'incroyables mises en scène où l'on transplante un cirque ambulant avec des funambules, où l'on recrée une authentique fête foraine, des combats à l'épée avec 16 protagonistes, l'illusion plus vraie que nature d'un coucher de soleil et même, clou du spectacle, un terrible orage avec éclairs, tonnerres, pluie et grêle réelle. Et lorsque la foudre s'abat, une boule de feu traverse la scène à la stupeur du public.
Gioite, voce valli, gioite, voce valli.
L'incroyable production d'opéra reprendra après le fâcheux pontificat d'Innocent X, opposé aux Barberini, sous Alexandre VII, avec la commande faite à Marco Marazzoli de la Vita Umana, dont la création sera donnée en l'honneur de la reine Christine de Suède, convertie au catholicisme, pour son arrivée dans son luxueux exil romain qui devait durer une trentaine d'années. La formidable initiative des Barberini allait donner des idées à d'autres grandes familles romaines comme les Colonna et toute la haute société, si bien que durant le seul carnaval de 1678, on dénombra 130 comédies jouées dans les maisons et palais privés romains. Le public pouvait aller d'une centaine de spectateurs à un bon millier. Parmi les spectateurs, le bal des Focus était à son comble, et là, Rome tient le pompon, puisque cardinaux et autres prélats, officiellement interdits d'opéra, trouvaient tout de même le moyen de suivre la représentation cachée, devinez où, derrière des grilles.
Sono sprovato di cupido affetto, sono al piacere, credi all'intenti bento,
farò quanti consiglia,
io son contento.
Odi, fermo piacer, perché mi lassi, torna o piacer, ascolta e pregar mio. Quando mi muovi d'altra parte i passi, la privazione mi cresce desio. Chi questo è prega, io non l'accolgo, in un di suoi stati, bravo, non bravo più, ne svolgo, e voglio. Segno le tue fedele, e poi corpoglio quando volte le piante, prendo della partita. Quanto ti cangi o vita, quanto volubile sei, quanto è costante. Figlia, prende il lieto conforto, se rilego il tuo dono, vento di morto. Ma si forte la ci trova vinto, che per quanto io discerno, se tosto non si scioglie, lungi non è d'arrivanerne estinto, seguendo a brevi sonno un sonno eterno. Lui però di perigli e di ridogli ritrarrò senza indugio.
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le protagoniste principal dans la construction des théâtres romains est l'architecte Carlo Fontana. C'est lui qui réalise les plans du premier théâtre public, le Tor di Nona, et il bâtit aussi les théâtres privés du cardinal Chigi, du collège Clémentin, de la famille Pamphili et de la famille Colonna. Cette dernière inaugure son théâtre le 3 janvier 1682, tout en bois doré, sur 4 étages de 15 loges chacun, un véritable petit bijou permettant de recevoir entre 300 et 400 personnes. La cage de scène est la véritable attraction de ce théâtre, puisqu'elle renferme les machineries les plus complexes. Hélas, pour la ville de Rome, elle dut s'adapter aux caprices des différents papes, certains se montrant franchement hostiles à l'opéra, quand d'autres affichent clairement leur bienveillance envers ces divertissements profanes. Il était donc clair qu'aucun pape ne serait le commanditaire du premier opéra public. Seules les personnes privées, avec des moyens plus limités, devaient s'y atteler, contrairement à Naples, Milan et Venise, qui allaient construire les théâtres San Carlo, de la Scala et de la Fenice avec de vrais moyens. De facto, au XVIIe siècle, un seul pape, le fameux Clément IX Rospigliosi, gloire à lui, auteur du livret du Sant'Alessio, autorise le français Jacques d'Alibert à construire le premier théâtre public de Rome, fortement encouragé par la reine Christine de Suède, qui rêve de reproduire ce qu'elle a connu à Bruxelles ou Innsbruck. L'architecte Carlo Fontana, qui a déjà une longue expérience dans la construction des théâtres, imagine une salle de 6 étages, une scène de 15 mètres de profondeur. La reine Christine de Suède, dont nous reparlerons, s'empresse de s'y faire construire la fastueuse loge centrale et se réserve les 5 loges de face au 2e étage, où elle pourra recevoir une 15aine d'invités, en majorité des cardinaux. Inauguré le 8 janvier 1671, le Tor di Nona ouvre pendant le pontificat de Clément X avec Scipione Africano de Francesco Cavalli, agrémenté d'un prologue et 2 intermezzi d'Alessandro Stradella. Les récits détaillent précisément le faste de la mise en scène, 16 décors différents, 10aine de machines, 14 personnages, 2 ballets et 2 intermèdes comiques entre les actes. Il fallait ce qu'il fallait pour remercier les commanditaires du théâtre.
Così negli stellati libri, oggi pur così mai. altri potranno nominarti codardo, se perdi l'inconsiglio e non per tua viltà scampi il periglio.
Felice mia cara genitrice, se m'imponi così, così risolvo, meglio fuggì, co tuoi comandi assolvo. Dimmi a te, di mio cielo, si testimonio cielo, e tu madre, tu diva testa al sole. Ch'io fu costretto dalle tue parole.
L'histoire du premier théâtre public romain démarre donc bien avec deux opéras lors du carnaval de 1671, trois l'année suivante, puis deux en 1673 et 74. Des années fastes, les seules pendant lesquelles des femmes pourront monter sur une scène romaine, juste avant le couperet d'Innocent XI. Durant l'année 1675, année sainte, pas d'opéra. C'est alors qu'arrive le désastreux Innocent XI. Dans les jours qui suivent son couronnement, il ordonne la fermeture du théâtre pour tout son règne, jugeant les opéras dévergondés et lascifs. Les Romains attendront 1689 pour reprendre le chemin du Tor di Nona, mais pour 2 ans seulement, grâce au court pontificat d'Alexandre VIII Ottoboni. Les choses iront ainsi qu'un cas, avec tout de même une période faste sous le napolitain Innocent XII Pignatelli, qui autorise l'ouverture d'un deuxième théâtre privé de Pompeo Cabranica, construit 12 ans plus tôt dans son palais de Santa Maria in Aquiro. La salle en a été agrandie et s'ouvre à toutes les classes sociales le 4 janvier 1693. Les ambassadeurs de France, d'Espagne et de l'empereur se sont chamaillés pour savoir qui obtiendrait les meilleures loges. Rome a désormais 2 théâtres payants, un public et un privé, qui vont naturellement entrer en concurrence pour s'attirer les meilleures distributions et les plus ingénieuses mises en scène. Pour mettre le Tor di Nona à niveau et lui permettre de résister à la concurrence, on construit un nouveau Tor di Nona, plus grand, plus beau, avec 28 loges privées réparties sur 5 niveaux, celles du 2e et 3e niveau étant les plus recherchées car les plus nobles. Pour l'inauguration, on donne Pénélope la chaste de Perti, avec pas moins de 13 changements de décor. L'œuvre est un véritable succès populaire, dont le résultat musical est dû au maestro al cembalo, l'excellent Bernardo Pasquini, claveciniste hors pair et ancien professeur d'Alessandro Scarlatti. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Une cabale de cardinaux fait l'assaut d'Innocent XII en lui prouvant par A plus B que ce théâtre est le lieu rêvé de la débauche et du scandale. La capitale de la chrétienté peut-elle tolérer un tel lieu à quelques centaines de mètres seulement du Saint des Saints? Sitôt dit, sitôt fait, et les premiers coups de pioche résonnent le jour même. Une semaine plus tard, il ne reste presque plus rien du beau théâtre qui faisait la fierté des Romains. Le pape consent tout de même à dédommager son entrepreneur et 2 carnavals plus tard, interdit aussi les opéras au Capranica. L'opéra ne peut désormais survivre à Rome que dans les théâtres privés. La ville éternelle ne connaîtra plus d'opéra public avant 1711. Fermez le banc.
Trofeo tua l'alma. ogni speranza mia dispersa al vento.
Cet oratorio, composé à Rome entre 1706 et 1708, Alessandro Scarlatti écrivit aussi d'autres formes musicales proches de l'opéra, comme ces six sublimes sérénades destinées à agrémenter les festivités privées des grandes maisons de Rome et de Naples, souvent allégoriques, plus brèves que les opéras, mais conçues avec les mêmes ingrédients musicaux, ces serenate étaient rarement mises en scène. L'une d'entre elles est la splendide Venere, Amore e Ragione, créée en 1706. Au terme de cette dispute entre Vénus et Raison sur la conduite de Cupidon, ce dernier parvient à convaincre Vénus de suivre les conseils de Raison. Sur la Via della Lungara, face à l'imposant palais Corsini, se trouvait l'ancien palais du Riaro, habité par Christine de Suède de 1663 à 1689, soit pendant les 25 dernières années de sa vie. Cette villégiature ne ressemblait en rien à un exil mortel puisqu'elle renfermait trois bibliothèques riches de quelques milliers d'ouvrages. La reine résidait au premier étage qui comportait un petit théâtre dont la fosse pouvait contenir jusqu'à 100 musiciens. Très férue de peinture, la reine possédait des toiles de Raphaël, Titien, Tintoret et Véronèse, On imagine donc que le Palais Riaro devient « the place where to be » à Rome. Le niveau de la production artistique était exceptionnel et la reine est dans les meilleurs termes avec les papes amis des arts comme elle, Alexandre VII et Clément IX. Hélas pour Rome, les choses se gâtent avec le Lombard Innocent XI, celui-là même qui interdit à partir de 1676 toute présence féminine sur une scène après que la reine a obtenu leur retour en 1671. De fait, ce curieux décret papal, curieux puisque l'interdiction ne s'appliquera pas aux autres villes des États pontificaux comme Bologne, Ferrare, Ravenne, Pesaro ou Ancona, ne sera aboli qu'en 1798, devinez par qui ? Par les Français. Au passage, les spectacles publics payants tombent dans le collimateur d'innocents, de même que les spectacles privé gratuit. Et ce rabat-joie va même jusqu'à menacer les castrats employés dans ces spectacles de les interdire de chanter dans les églises romaines. La règle est contournée par les entrepreneurs qui enrôlent des castrats extérieurs aux états pontificaux. Et pour couronner le tout, le pape part en croisade contre les vêtements féminins à la française, jugés trop décolletés. Ce à quoi la reine Christine répond par les innocentianes, vêtements parodiques qu'elle porte avec sa suite lorsqu'elle se rend au Vatican, histoire de faire bisquer le pontife. Décidément, cette reine ne manque pas de caractère. Sur le plan musical, elle sait s'entourer des meilleurs. Pasquini, virtuose du clavecin et organiste, Alessandro Scarlatti et le plus grand violoniste de son temps, un certain Arcangelo Corelli. Corelli s'est fait remarquer à Rome en prenant part comme violoniste à des oratorios, à des fêtes organisées par de riches familles et dans quelques opéras. Accueilli par les mécènes les plus influents de la ville sainte, il semble poursuivre des études de composition, c'est-à-dire de contrepoint à l'ancienne, auprès de Matteo Simonelli, chanteur de la chapelle Sixtine, et joue dans l'orchestre de Saint-Louis des Français, une des principales églises de Rome, entretenant un orchestre permanent, les autres faisant appel aux musiciens selon leurs besoins. D'autres occasions se seront présentées pour Corelli de charmer les oreilles des familles Barberini dans leur palais de la rue delle Quattro Fontane, du prince Lorenzo Onofrio Colonna ou du marquis Pompeo Capranica, mais aussi du cardinal Benedetto Pamphili qui se fait construire dans les années 1680 un théâtre dans son palais du Corso sur des plans de Carlo Fontana, lieu magique où l'on joue des opéras de Pasquini et Alessandro Scarlatti. Et notre Corelli joue aussi pour la reine Christine de Suède, à qui Pasquini dédie plusieurs de ses opéras, de même que pour la reine de Pologne, Maria Casimira, logée au palais Zuccari, elle aussi au centre d'une formidable activité créatrice dans son petit théâtre animé par la musique de Domenico Scarlatti. Les intentions de Corelli, dès son opus 1, dédié à la reine Christine, sont claires, permettre au violon de briller. En retour, elle lui invente un surnom flatteur, l'Arcangelo del Violino, qui contribue à faire monter son nom au panthéon des musiciens romains. Mais en 1684, la reine doit réduire son train de vie et Corelli obéit à la loi du marché. Il se vend au plus offrant, qui n'est autre que le cardinal Benedetto Pamphili, petit-neveu du pape Innocent X. Un cardinal bigrement musicien qui se pique d'écrire des livrets d'opéra pour Scarlatti, Pasquini, Cesarini et que nous croiserons à nouveau vendredi dans notre épisode consacré à Handel. En temps normal, son orchestre est fort de 30 à 40 exécutants, dont la moitié de violon, mais pour les grandes occasions, Corelli aime avoir un grand nombre de musiciens dans son orchestre qui se monte à 70, 80, voire même 100 instrumentistes, comme sur cette célèbre gravure représentant la place d'Espagne en 1687 au pied de la Trinité des Monts, où l'on a bâti de vastes gradins pour pouvoir recevoir l'orchestre. Si un tel effectif n'est pas à la portée de toutes les bourses, celles du cardinal Benedetto Pamphili permettent ce luxe musical reposant sur l'excellence du recrutement, notamment d'un certain nombre d'instrumentistes-compositeurs comme Pasquini au clavecin, Gasparini, Bononcini et Geminiani. Hélas pour lui, Benedetto Pamphili va être nommé légat du pape à Bologne et Corelli devra se chercher un nouvel employeur, qu'il ne mettra pas longtemps à trouver. À Rome, les mécènes pullulent et ce sera un autre cardinal ami des arts, Pietro Toboni, qui sera l'heureux élu de la dédicace de l'Opus 2. C'est bien la moindre des choses quand on est logé confortablement dans un des plus beaux palais romains. Quelques années après la mort de la reine Christine de Suède à 62 ans, en avril 1689, débarque à Rome une autre souveraine, Marie Casimir. D'origine française, elle était née à Nevers, veuve de Jean III Sobieski de Pologne, le grand vainqueur des Turcs devant Vienne en 1683. Elle est aussi passionnée de musique et s'installe dans le palais Zuccari, ravissante demeure du XVIe siècle située à un jet de pierre de la Trinité des Monts qui devient un nouveau centre artistique dans la Rome du XVIIe siècle. L'installation nouvelle de cette cour royale en plein cœur de Rome est en quelque sorte la réplique, peut-être en moins brillant, de la reine Christine de Suède. Mais on peut dire que durant les 15 années de son séjour, elle n'aura pas démérité pour s'entourer des meilleurs musiciens comme Domenico Scarlatti entre 1709 et 1714, juste avant qu'il ne la quitte pour devenir maître de chapelle à Saint-Pierre. Fin de ce deuxième épisode, j'aurai plaisir à vous retrouver demain pour évoquer la vie musicale de la chapelle Sixtine. Tous les renseignements sur les musiques que nous avons écoutées sont sur le site de l'émission, francemusique.fr, vous le connaissez. Merci à Annie Comier, Bernard Laniel et Catherine Prin-Legal à la réalisation. Cette émission se réécoute sur francemusique.fr ou sur l'appli Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.